Dieu dans le livre de la Genèse. Au chapitre 43, je vous proposerai simplement un verset, le verset 11. La Genèse, le chapitre 43, le verset 11. Voilà, je ne sais pas trop quelle est la durée habituelle de vos cultes. Voilà, ne me laissez pas prêcher jusqu'à ce soir, jusqu'au crépuscule. Hein. Voilà, vous me ferez un signe. Voilà, pour me faire comprendre que c'est l'heure. Genèse 43, pardon, et le verset 11. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays, pour en porter un présent à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Amen. C'est Jacob, Israël, qui adresse cette parole à ses fils dans un épisode très particulier. Le début du chapitre nous dit qu'il y avait une famine sévère qui s'appesantissait sur tout le pays. Joseph est en Égypte, c'est pour vous donner un peu le contexte de ce récit. Et devant la famine pressante, Jacob suggère que ses fils retournent chercher quelques provisions. Et là, il prononce une parole que je souhaiterais développer ce matin. C'est ce verset 11 sur lequel j'aimerais attirer toute votre attention. Jacob va dire, puisqu'il le faut, c'est nécessaire, c'est impératif, c'est capital, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Et voici, on essaye de visualiser la scène, que chacun des fils de Jacob se dirige vers sa tente, entre dans son espace intime, son espace personnel pour chercher un sac, son sac. Peut-être en saisissant son sac, tel personnage va trouver que son sac est déjà rempli de plein de choses. Alors il faut qu'il le vide d'abord et qu'il y mette, selon l'ordre de Jacob, les meilleures productions du pays. C'est sur cette image que j'aimerais ce matin que nous réfléchissions, parce que, au fond, le sac, c'est notre cœur. C'est un contenant. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé, je sais que sur la Côte d'Azur, les gens sont très paisible, il n'y a pas de problème. Mais au cas où il vous serait arrivé l'expérience suivante, d'avoir accumulé des frustrations, des contrariétés, de la colère, etc. Et à un moment donné, vous ne contrôlez plus rien et vous dites, j'ai vidé mon sac. Ça m'a fait du bien. Ça n'a pas forcément fait du bien aux autres, mais vous, ça vous a soulagé. Vous avez vidé votre sac. Et ce sac, en fait, c'est une manière de parler pour désigner notre cœur. Et je crois, frères et sœurs, que dans notre cœur peuvent s'accumuler un certain volume d'éléments négatifs. J'aimerais poser cette question, je me la pose aussi, je te la pose. Qu'y a-t-il dans ton sac ce matin ? Qu'y a-t-il dans ton sac ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dès les premières semaines de l'existence, même le bébé vit des choses dont certaines sont des frustrations. Presque dès le couffin, nous accumulons dans notre sac des expériences, des traumatismes, des déceptions, sentiments d'échec, d'abandon, d'incompréhension, d'injustice, et la liste pourrait se prolonger tellement, eh bien le Seigneur, en substance, voudrait nous dire, va chercher ton sac, parce que dans ce sac, où tu as accumulé trop d'éléments négatifs qui nuisent à ton bonheur, moi j'aimerais le remplir des meilleures productions du pays. Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce qu'il n'y a pas là un anachronisme? Vous avez dit qu'une famine sévère pesait sur tout le pays, et en même temps, dans ce pays, se trouvent des productions excellentes. Eh bien oui. Dans les temps très difficiles que nous vivons, où une détresse innommable s'observe jour après jour autour de nous, il y a des productions excellentes qui sont celles du royaume des cieux. Et il y a un Dieu merveilleux, plein de grâce, dont la volonté est de remplir tous les sacs des meilleures productions du pays. Qu'as-tu dans ton sac? C'est une évidence, mais il vaut mieux quand même le dire. Avant de remplir mon sac des bénédictions excellentes du ciel, il faut que je le vide de ce dépôt négatif qui pourrait s'y trouver. Vider mon sac afin de permettre à Dieu de le remplir. C'est la sagesse que le Seigneur nous invite à pratiquer. Un jour, le père de la parabole va voir de loin le fils prodigue, son fils, qui revient. Il est méconnaissable, mais le père le reconnaît. Et quand le fils se trouve près de son père, dans son sac, il y en a des choses pas agréables. Il est conscient de sa folie. Il est conscient de son orgueil. Vous vous rendez compte? Quelle blessure il a infligée à ce bon père le jour où il lui dit « Donne-moi ma part de bien, moi je m'en vais de la maison, elle devient irrespirable. » Et imaginez les larmes du père, la blessure infligée. Et maintenant, ce jeune qui était inconséquent est rentré en lui-même, il prend conscience de certaines réalités, son sac est rempli de culpabilité, d'indignité, de souillure. Il a dilapidé l'argent paternel avec des gens de mauvaise vie. Il a traîné ses guêtres dans des sentiers de souillure et puis il s'est retrouvé gardien de cochon. Quelle promotion! Son sac est plein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le vide. Il le vide dans une démarche sincère. Il dit, mais mon père, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alors, il vide son sac de tout ce dépôt très inconfortable. Et maintenant que son sac est vide, disponible, le père le remplit. Allez, vite, un anneau à son doigt, l'anneau filial qui le rétablit dans ce rang. Vite, une robe de fête, préparez le repas du festin du retour de mon fils qui était mort et qui est revenu à la vie. » Le père rempli. Rappelez-vous ce dialogue intense que Jésus a eu avec Simon-Pierre au lendemain de la deuxième pêche miraculeuse. Dans le sac de Simon, il y avait beaucoup de choses inconfortables. Il avait renié son maître à 3 reprises. D'ailleurs, il va se retirer dans un coin secret et il va pleurer amèrement. Son sac est plein de choses amères. Mais il en est un qui souhaite le remplir d'excellentes choses. Et dans ce dialogue de Jésus avec son disciple, l'instant décisif fut l'instant où Pierre va dire « Seigneur, tu sais toutes choses. » Là, il est en train de vider son sac. « Tu sais que je t'ai renié. » Et même avec imprécation, j'ai insisté, j'ai maintenu, j'ai confirmé cette position de reniement à 3 reprises. J'ai une honte qui me ronge l'âme. Je me sens intérieurement complètement gangréné. Seigneur, tu sais toutes choses. Et là, il vide son sac et Jésus le remplit en lui adressant des paroles qui lui montrent qu'il n'a pas été disqualifié, mais qu'il est toujours dans le radar du Seigneur. Alors, paie mes brebis, paie mes agneaux, et il missionne son disciple. Alors voilà ce que le Seigneur a conduit à faire à ses patriarches, ses fils d'Israël, à qui le Père dit, prenez dans votre sac, dans vos sacs, eh bien, les meilleures productions du pays. Les meilleures productions, les meilleures, en hébreu, c'est le mot halal, qui a donné le halal. Hein. C'est un mot très fort qui signifie la qualité la plus excellente qui soit. Un produit halal, c'est un produit dont la saveur, dont le goût, dont la qualité est absolument inégalable. On n'en trouve pas de semblable ailleurs. C'est comme les pâtisseries arméniennes. Vous en aurez nulle part ailleurs. C'est le halal, c'est les meilleurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui dans son cœur est tiraillé, tenté, découragé, ballotté entre l'Église et le monde, j'aimerais te dire qu'il n'y a rien de meilleur que les bénédictions que Dieu communique à ses enfants. Il n'y a pas de vie meilleure, il n'y a pas de décision meilleure, il n'y a rien de meilleur que le plan de Dieu pour ses enfants. Et ne permet pas au père du mensonge d'insinuer quelques doutes dans ton esprit, te permettant d'envisager que peut-être dehors c'est meilleur. Non, c'est du royaume des cieux que descendront dans ton sac jusqu'à le remplir les meilleures bénédictions, toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. Et je prie le Seigneur pour qu'il en soit ainsi ce matin. Amen. Est-ce que ton sac est ouvert? Est-ce que ton sac est débarrassé des dépôts indésirables? Est-ce que tu es en situation qui permette à Dieu ce matin de remplir ton sac? De remplir ton sac de ses bénédictions. Le Hallel. D'ailleurs, quand on chante Alléluia, on est en train de proclamer un formidable message. Parce que Alléluia, c'est la contraction de Hallel et de Yahvé. Le Yah de Yahvé, l'Éternel. On est en train de dire, il n'y a rien de meilleur que l'Éternel. Il n'y a rien de meilleur que de connaître l'Éternel, que de lui appartenir. Il n'y a rien de meilleur. C'est un témoignage très fort quand tu dis Alléluia, tu proclames quelque chose d'une intensité incroyable, n'est-ce pas? Il n'y a rien de meilleur que la vie avec Dieu, que le plan de Dieu, que de marcher dans ses voies. Et Jacob va donc apporter quelques précisions, une liste de produits. Dans ce sac, mettez-y un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe et des amandes et des pistaches. Et on peut se dire, mais pourquoi ça et pourquoi pas autre chose? Et parce que derrière ces détails qui nous sont rapportés, je ne sais pas si Jacob était conscient de la portée prophétique et spirituelle de ses paroles, il y a toute une série d'enseignements de nature spirituelle. La première chose dont vous devez remplir votre sac, dit Israël à ses fils, c'est du baume. En premier, c'est le baume qui nous parle de l'action guérissante, apaisante et restauratrice dont Dieu veut remplir chaque cœur. Combien de fois le Seigneur a appliqué son baume sur mon cœur? Moi, je vous le dis, vous avez devant vous, non pas Sylvester Stallone, hein, c'est pas l'incassable, on est tous vulnérables. Combien de fois mon Dieu a fait couler son baume dans mon sac, qui avait besoin d'encouragement, d'apaisement, d'être rassuré face à des situations impressionnantes, d'être stabilisé dans ses émotions, dans des contextes bien ballottés, violemment ballottés. Mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu dans son intervention de première urgence, c'est de remplir ton cœur de son baume. C'est la première parole que Dieu a prononcée à son peuple au sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et si Dieu s'est présenté tout premièrement, sous ce visage-là, sous ce visage de l'Éternel qui guérit, c'est parce que Dieu, qui sonde les cœurs, a vu combien son peuple avait besoin de guérison. Pourtant, quelques jours avant, lorsqu'il se retrouve de l'autre côté de la mer Rouge, à sec, c'est la fête, c'est des danses, c'est des tambourins, c'est des cantiques qui élèvent la grandeur de l'Éternel. Et ils étaient sincères. C'est un peuple en liesse qui bénit l'Éternel. Mais les regards de Dieu vont plus loin que les tambourins, les danses et les expressions sonores. Dieu voit le cœur. Vous savez, on ne sort pas de 430 ans d'esclavage en Égypte indemne. Et même après avoir franchi la mer Rouge, tout n'a pas été réglé d'un coup d'un seul. Il y avait besoin que la guérison merveilleuse, miraculeuse, dont Dieu est la source, coule dans le cœur de son peuple. Et lorsque je lis « Je suis l'Éternel qui te guérit », je comprends qu'il y a là le présent de la continuité. Je suis l'Éternel qui est toujours en train de te guérir. Constamment, je déverse dans ton sac, dans ton cœur, ce baume dont tu as besoin. Frères et sœurs, reconnaissons ensemble que les occasions de subir des agressions de gravité diverse, certes, mais elles sont nombreuses. Dans une journée, dans une semaine, au fil des mois, au fil des années, au fil des circonstances, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il est bon de permettre à Dieu d'accomplir cette action de guérison de guérison permanente qui nous permet, malgré tout, de rayonner de joie. Amen. De dégager une paix, de l'espérance. Ça va mal autour. Quelquefois, on est la cible d'un choc, d'un traumatisme, de quelque chose d'injuste qui cherche à nuire à notre bonheur, mais le baume du Seigneur est là. Il est l'Éternel qui me guérit. Et c'est parce qu'il est ce Dieu de guérison permanente que nous pouvons persévérer victorieusement, avec joie et avec espérance. Hein, gloire à Dieu. Vous savez, l'Église, c'est un miracle. Les croyants qui marchent avec le Seigneur, malgré tout, envers tout, c'est un miracle. C'est le miracle du baume divin. C'est le miracle de Dieu qui veut remplir le sac de son bien-aimé, de sa bien-aimée, du baume dont il a l'exclusivité. Il est l'Éternel ce matin qui te guérit. Reçois-le, crois-le, sois guéri, sois béni intérieurement. Alléluia! Expérimente intérieurement l'effet merveilleux de ce baume. Amen. Je le crois ce matin, par l'assistance du Saint-Esprit, quelqu'un reçoit l'apaisement de sa douleur, l'encouragement. Les exemples sont si nombreux dans la Bible qui confirment que Dieu a ce merveilleux pouvoir de guérir l'âme la plus douloureusement atteinte. Regardez cette femme qui pleurait, elle était mortifiée, stérile, sa concurrente la rabaissait, elle était inconsolable, son mari faisait tout pour la réconforter, mais ce n'était pas suffisant. Alors elle vient dans la maison de Dieu et elle présente son sac au Seigneur. Avec beaucoup d'honnêteté, elle dit voilà où j'en suis, voilà ma souffrance. Elle présente cela. Et par une parole, une seule parole, et en un clin d'œil, Dieu guérit le cœur en souffrance. La Bible nous dit qu'en entendant la parole de Dieu, Anne saisit la promesse, son visage n'est plus le même. Elle devient comme un soleil. Elle rentre à la maison. Elle mange. Elle se réjouit. Et elle expérimente la promesse de Dieu. Et arrive Samuel, le prophète. Que Dieu soit béni. Il y a des récits tellement merveilleux et nombreux qu'ils doivent tous être pour quelqu'un ce matin un encouragement dans le pouvoir de guérison que le Seigneur veut déployer en ta faveur. Dans ce sac, mettez-y d'abord le baume, puis mettez-y du miel. Mettez-y du miel. Et le miel fait partie des différents symboles qui nous parlent de la parole de Dieu. Le miel, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai, mon frère, ma sœur, que Dieu veut remplir ton sac de sa parole. Gloire à Dieu. La parole de Dieu. Le miel, sur un plan médical, a des vertus reconnues depuis longtemps. Moi, je me suis un petit peu documenté parce que je ne suis pas un expert, mais le miel aide à la cicatrisation. Vous le saviez ? Ben oui. Le miel aide à la cicatrisation. La parole de Dieu dont tu rempliras ton cœur permettra la cicatrisation de ton mal. J'étais interpellé un jour, je regardais la vie de ce triste personnage, Achitophel, vous savez, Achitophel, et je me suis aperçu que Achitophel a gardé de la rancune pendant 30 ans. quand vous regardez les informations bibliques, pendant 30 ans, cet homme a nourri de l'amertume. C'est pourquoi il a voulu attenter à la vie de David. Il a comploté contre lui. Mais ça, pendant 30 ans, il a porté là dans son sac une tumeur qui s'appelle l'amertume. L'amertume. Et ça ne voulait pas se cicatriser, n'est-ce pas ? Eh bien, la parole de Dieu a ce pouvoir de faciliter la cicatrisation. Tu te souviendras toujours des événements, mais leur souvenir ne te fera plus souffrir, parce que la parole de Dieu aura cicatrisé intérieurement toutes les blessures et aura fait disparaître les ulcères. Alors, le miel aide à la cicatrisation. Il renforce le système immunitaire. C'est important, hein. Quand on fait une projection spirituelle, hein, il renforce le système immunitaire. Il hydrate et fortifie la peau. Il permet un sommeil de qualité. Ça, c'est le repos, la paix dans le Seigneur. Il fait baisser le mauvais cholestérol. C'est vrai, il y a des tests qui le confirment. Vous savez, ce vilain cholestérol, il y a le bon, mais l'autre qui vous encrasse les artères. Et ça, vous savez, moi je le comparerais volontiers à des sentiments d'orgueil qui viennent quand même. Et ça met en péril la bonne circulation et même notre vie, notre santé. Eh bien, le miel a toutes ses vertus, et une qui n'est pas des moindres, je termine avec celle-ci, augmente les performances athlétiques. Alors, ce n'est pas sur un plan physique, bien sûr, on ne va pas se préparer pour les JO de 2024, mais d'une certaine façon, au plan spirituel, Dieu veut que nos performances soient en augmentation. Amen. Nos performances dans le service de Dieu, dans notre vie de prière, de louange, etc., eh bien, la parole de Dieu, elle contribue grandement à développer toutes ces vertus. La parole de Dieu. Et puis, donc, le baume, le miel, des aromates. Des aromates, et les aromates sont volontiers le symbole de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ ressuscité. Rappelez-vous, à peine a-t-on placé le corps inerte de Jésus dans le tombeau, les femmes se sont pressées de préparer les aromates. Et lorsque le sabbat fut terminé, le premier jour au matin, le dimanche matin, avec leurs aromates, elles arrivent pour embaumer le corps de Jésus. Elles trouvent la pierre roulée. Un ange leur dit « Je sais qui vous cherchez, je sais que vous cherchez Jésus. Voici la bonne nouvelle. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il est ressuscité. » Et mes amis, cette nouvelle a bouleversé leur cœur, celui des disciples, celui de l'Église, et depuis 20 siècles, c'est ce qui fait la puissance de l'Évangile. Jésus-Christ crucifié pour sauver l'humanité, mais Jésus-Christ ressuscité, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu, c'est que ton sac soit rempli de la puissance, de la vie, de résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Et j'ai presque envie de dire que le jour de la Pentecôte, vous savez, quand les 120, quand ils étaient là dans la chambre haute, ils priaient depuis plusieurs jours, et puis au bout de 10 jours, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit, mais en fait, en étant remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis de la vie, de la résurrection de Jésus. Ça les transforme, ça les transforme. Les voici métamorphosés, libérés de leur fébrilité, de leur crainte récurrente, libérés de l'orgueil, de l'esprit de compétition, c'est qui le plus grand, c'est qui le plus petit. Libérés, transformés, ils sont remplis de la vie de Jésus. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite. C'est que nous puissions dire, Seigneur, voici mon sac, remplis-le de ta vie, Seigneur. Et remplis-le de ta vie en me remplissant de ton Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, quelle bénédiction, quelle dimension merveilleuse lorsque un enfant de Dieu expérimente le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Allez, c'est entre nous, hein, une petite parenthèse personnelle. C'était un samedi soir, j'avais 18 ans. Vite, je faisais quelques derniers devoirs pour le lundi, parce que je savais que le dimanche, du matin au soir, c'était à l'église, et pour moi, c'était la fête. Et alors, j'étais là, en train de faire quelques... Et dans la salle de bain, j'entends ma mère, fraîchement convertie. Elle est dans sa baignoire, elle se prépare pour son culte, mais son culte avait commencé dans la baignoire déjà. Elle chantait des cantiques. Et puis cantique après cantique, à distance, je me disais, oh, ça y va, hein, parce que je percevais l'intensité des cantiques là, qui montaient. Et à un moment donné, frères et sœurs, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Là, dans sa baignoire. Elle a été remplie du Saint-Esprit, et je vous assure que le lendemain au culte, ben, elle n'a pas mis un quart d'heure avant de louer le Seigneur. Hein. Ouh là 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 là. Quand on est rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, ça ne vous fait pas envie? Vous n'aimeriez pas présenter vos sacs? Dire, Seigneur, moi je ne veux pas un sac avec un simple reliquat d'un baptême du Saint-Esprit quinquagénaire. Mais je veux un baptême du Saint-Esprit pour aujourd'hui, Seigneur. Je veux une huile fraîche, une nouvelle plénitude. Je veux que mon sac déborde de ces aromates qui me parlent que Christ est ressuscité. Je veux vivre la vie de résurrection du Seigneur. Qui va dire, d'accord, personne. Bon, ben si, non, deux, trois, tous, hein, je pense, non. C'est la volonté de Dieu, en tout cas. Dieu adresse ce message d'amour à son Église dans cette période de famine générale. Prenez vos sacs, ouvrez-les et laissez-moi le remplir de la puissance de la vie de résurrection du Seigneur Jésus. La vie du ressuscité en toi engendrera des fruits miraculeux qu'aucun effort humain ne pourrait produire. C'est la vie du Seigneur, son règne en nous. Gloire à Dieu, le parler en langue, les dons spirituels, les prophéties, le zèle, la ferveur, la chaleur, alléluia, la consécration qui nous transporte, qui n'est pas forcée, mais qui nous porte et nous transporte pour la gloire de Dieu. Et je termine avec les deux derniers symboles, la myrrhe et puis pistache et amande. La myrrhe, qui est le symbole de la souffrance. Et quelqu'un va dire, oh là là, il avait bien commencé, mais là, il va nous parler de la souffrance. Ouh. La souffrance, il faut le préciser, la souffrance pour Christ. Parce qu'il y a des souffrances qui sont les conséquences de notre inconséquence. Ça, c'est autre chose. Le Seigneur veut nous secourir, certes. Mais là, il veut nous remplir de la myrrhe, autrement dit, de la disposition de cœur prêt à payer le prix pour servir le Seigneur, honorer le Seigneur avec persévérance. Lorsque Paul va parler de sa vie, il sait que bientôt il va rejoindre son Seigneur. Il va parler de sa vie en la comparant à un combat. Mais attention, au bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Gloire à Dieu. Ne nous trompons pas de combat, parce qu'il y a un bon combat, le bon combat, il y a beaucoup de mauvais combats. Et personnellement, je n'ai pas de temps ni de force à dilapider pour de mauvais combats. Mais je suis prêt à vivre le bon combat de la foi. Ce combat dont les fruits et les résultats vont être à la gloire de Dieu. Un jour, une chrétienne me présentait son mari, était toute heureuse. Elle me disait, voilà, mon mari, je vous le présente, il a pris le baptême il y a un an. Quelle joie, quel bonheur. Et elle m'a dit, il a résisté 33 ans. Pendant 33 ans, cette sœur a combattu dans la prière. Régulièrement, tous les jours, elle suppliait Dieu de visiter son mari, qui était froid, dur, hermétique, imperméable dans ses raisonnements, sa rigueur rationnelle. Et puis, le moment venu, le miracle s'est produit. Cet homme a été convaincu qu'il était perdu, qu'il était misérable de résister à ce point à l'amour de Jésus. Ses résistances ont craqué. Il s'est repenti de ses péchés, il a été sauvé, et au culte, à côté de sa femme, il chantait des cantiques. Quand je le regardais, je me disais, oui, ça faisait qu'un an. Mais il a fallu livrer le combat. Je t'encourage à livrer le combat de la persévérance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, persévère, lâche pas le terrain. Baisse pas les bras, ne renonce pas, continue, attache-toi aux promesses de Dieu, amen. Ça va générer certainement une forme de souffrance, mais c'est la souffrance de la future maman, c'est les contractions. Bon, mais quand le bébé est là, ben, elle oublie ses contractions, elle oublie sa souffrance, ça y est, il est là. Quand le fruit sera devant tes yeux, tu béniras l'Éternel de t'avoir donné la capacité de persévérer, d'endurer, de souffrir. Ne baisse pas les bras, que le Saint-Esprit ce matin t'encourage et remplisse ton sac de cette disposition à souffrir pour Christ. Et je termine, les pistaches et les amandes, ce sont des produits énergétiques, calorique, il nous parle de force. Oui, Dieu veut remplir ton sac de sa force. Peut-être avait-il besoin au préalable de te convaincre que ta force n'était qu'illusion. Je suis passé par là. Il nous convainc que nos capacités naturelles ne seront jamais suffisantes. Et une fois qu'on est convaincu de cela, humblement, on lui présente notre sac. Et il le remplit de pistaches et d'amandes. Il le remplit de sa force. Ton Dieu, comme dit l'apôtre Paul, a le pouvoir de te fortifier, de t'affermir, de te rendre inébranlable. La force. La force du Seigneur est une nécessité impérieuse, remplissant ton sac. Gloire à Dieu. Prends conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Arrête de subir passivement. Arrête de subir la mitraille, les coups de l'adversaire, d'une façon fataliste. Baisse pas les bras. Prends conscience de qui tu es. Un racheté du Seigneur. un enfant du Père Céleste. Ce Père Céleste qui a promis de prendre soin de nous comme de la prunelle de son œil. Gloire à Dieu. Son assistance, sa protection, sa provision, sa fidélité indéfectible doivent te rappeler que tu n'es pas une marionnette devant l'adversaire, mais que tu es l'enfant de Dieu. Son nom est invoqué sur ta personne. L'accusateur des frères voudrait construire en toi une mauvaise image de toi-même. L'accusateur voudrait te convaincre que tu es faible, que n'importe comment tu ne t'en sortiras pas. Il va te rappeler tes efforts passés qui n'ont été que stériles et vains. Il va essayer de construire en toi une image de ta personne qui est fausse, qui est négative. Mais il est le père du mensonge. Ne crois pas ces mensonges, mais crois la parole de Dieu qui te dit qu'en Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette identité te confère une autorité spirituelle, une force, des ressources, des capacités. L'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que quelqu'un va le croire ce matin pour son compte personnel ? Je puis tout. Donc, je change de langage. Je ne confesse plus de ma bouche mes limites, mes échecs, mes défaites, ma misère. Non, mais le Seigneur me remplit de cette glorieuse réalité, de mon identité, ma nouvelle identité d'enfant de Dieu. Vous savez, un retour rapide au fils prodigue. Quand l'anneau filial a été placé au doigt du fils prodigue, à l'instant même, ce jeune homme recouvre une identité, une autorité, une position. Cet anneau filial, c'est le sceau. Il redevient le propriétaire, le gestionnaire, l'administrateur. Avec ce sceau, il va et il achète un terrain. Et il incruste le sceau de la maison du père sur l'acte officiel. C'est un petit objet qui apporte un grand message. Il est désormais le fils du père. Tu es fils, fille du Père Céleste. Ceci te confère une identité, une force, une autorité. Actionne cette autorité par la foi et dans le nom de Jésus, et ne reste pas dans un état prostré, handicapé, complexé, mais occupe et vis pleinement ce que tu es en Jésus-Christ. Un adorateur, un disciple, un témoin, une servante, un serviteur, zélé pour le Seigneur. Que le Seigneur nous en fasse la grâce. Est-ce que vous voudriez